Matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Les Voix de l'économie, bonjour Carlos de Cordoue.
Bienvenue. Oui, bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Crédit Agricole Ukraine. Dans quel état, d'abord, se trouve l'économie ukrainienne ?
Ben écoutez, de façon assez surprenante, en tout cas par rapport au scénario qu'on avait en début de guerre, l'économie ukrainienne non seulement s'est stabilisée assez rapidement, mais aujourd'hui une économie en croissance. Donc après le choc brutal du début de la guerre, avec des pertes de territoire, donc une perte économique, petit à petit, l'économie s'est redressée grâce à deux facteurs. D'abord, l'adaptation. Cette capacité d'adaptation des Ukrainiens à la situation qui nous a vraiment étonnés. Et puis aussi, et il faut le reconnaître, grâce à l'aide financière internationale, il faut se souvenir du choc de début de la guerre, hein, où l'économie a été arrêtée pendant 3 mois. Nous-mêmes, nos scénarios étaient assez pessimistes. Lorsque la mer Noire s'est trouvée fermée, l'agriculture est asphyxiée en Ukraine. Donc très rapidement, les Ukrainiens ont mis en place des nouveaux circuits logistiques pour pouvoir sortir leurs céréales par la Roumanie, par la Pologne aussi. Mmh. Ça a permis d'alimenter un peu l'économie. Et puis, quand on voit ce qui s'est passé ensuite, la neutralisation de la flotte russe en mer Noire, oui, qui a permis aux Ukrainiens de recréer un couloir d'exportation.
Et hormis la puissance du secteur agricole que vous évoquez, notamment céréalier, dont on entend régulièrement parler, à quoi ressemble cette économie ukrainienne ? Parce qu'on l'imagine, vu d'ici, très tournée désormais vers l'industrie de défense, vers l'armée, en mode économie de guerre. Est-ce que c'est le cas ?
Alors c'est le cas. C'est-à-dire que, vous savez, c'est assez impressionnant. Je visitais l'autre jour une usine de drones ukrainiens, donc qui ont été créés de toutes pièces. Hein. Oui. Et l'Ukraine fabrique aujourd'hui 10 000 drones par mois, hein, wow, qui est un instrument de défense essentiel dans la guerre de position que l'Ukraine expérimente aujourd'hui. Donc oui, il y a une économie de guerre qui s'est mise en place, mais de l'autre côté, il y a des secteurs économiques qui se portent pas si mal, notamment tout ce qui concerne les hautes technologies et l'informatique, hein, où l'Ukraine est exportatrice nette de services informatiques, et ce secteur résiste extrêmement bien. Donc vous avez aussi tout le secteur sidérurgique et minier qui, lui, a été très touché. Oui. Très, très touché. On se souvient d'Azovstal.
Tout à fait, l'usine dans laquelle voilà, pendant des semaines, voilà, des combattants ukrainiens ont lutté contre effectivement des commandos, voilà, russes. Que représente, Carlos de Cordoue, vous qui êtes le directeur général de Crédit Agricole Ukraine, l'implantation de cette banque dans ce pays ?
Alors, on était la première banque à s'installer en Ukraine il y a un peu plus de 30 ans, au moment de l'indépendance, hein, du pays, avec pour vocation première d'accompagner les entreprises internationales qui venaient s'installer sur place. Et à la suite de ça, on a racheté une banque ukrainienne, une banque de réseau, qui avait 200 agences, on en a 150 aujourd'hui, de façon à couvrir l'ensemble de l'économie et d'avoir une banque universelle, en réalité, en Ukraine. On est considéré aujourd'hui comme l'une des banques les plus solides d'Ukraine. Mm. Hein, voilà, avec des expertises, avec des qui proviennent de notre culture de groupe internationale.
Oui. Hein. Et cette solidité, elle a été mise à l'épreuve donc par dès le déclenchement de la guerre. Comment fonctionnez-vous aujourd'hui ? Comment fonctionne une banque en Ukraine ?
Tout d'abord, et c'était la surprise des premiers jours, et d'ailleurs du premier jour, puisque devant ce choc brutal, évidemment, nous, notre réflexe occidental, c'est de tout fermer et de se mettre à l'abri. J'étais sur place ce jour-là.
24 février 2022.
Et je me rends quand même au siège pour voir ce qui se passe. Et là, je vois un défilé de collaborateurs qui viennent chercher leur laptop pour aller travailler dans leurs abris ou dans leurs caves. Et puis de l'autre côté, je vois les gens du réseau, hein, d'agences, qui me disent « Mais il faut qu'on garde nos agences ouvertes. On ne peut pas laisser tomber nos clients. Ils ont besoin, pour des services essentiels, de... » Donc on a rouvert les rideaux très vite, les rideaux des agences.
Donc là, je sens l'étonnement dans vos yeux encore aujourd'hui par rapport à ça.
Oui, oui, et c'est là où on a ressenti qu'il y avait, au-delà de la solidarité qu'on a perçue dans toutes les couches de la société, on a vu que pour eux, c'était existentiel en réalité, et que la résistance commençait, hein, dès le premier jour. Donc c'était assez surprenant, et en réalité, très vite, on a continué à opérer. On a toujours 80% de nos agences qui sont ouvertes en permanence. On a juste abandonné celles qui sont en territoire occupé, bien sûr. Mais tout le système bancaire s'est organisé pour continuer à fonctionner.
À quel point vous avez dû aménager votre fonctionnement, renforcer la sécurité de vos sites, et puis je pense à toute la partie cyber aussi qui est critique encore plus dans les banques qu'ailleurs.
Pour sécuriser nos systèmes, on a pris plusieurs décisions. L'une d'entre elles, ça a été de basculer nos systèmes d'information sur le cloud. Nos data centers étaient physiques, locales. Oui. Ils sont toujours là, d'ailleurs, ils fonctionnent. Mais on a maintenant un backup organisé sur le cloud qui permet de fonctionner en cas d'attaque sur nos serveurs physiques.
Carlos de Cordeau, directeur général du Crédit Agricole Ukraine, comment faites-vous face aussi à la mobilisation des soldats, donc de toute une partie de la population masculine qui potentiellement vous prive ou prive vos clients d'une partie des salariés?
Alors, on a 800 salariés masculins. Sur 800, 50 sont mobilisés. 90% sont des volontaires du début de la guerre. On n'a pas encore eu en Ukraine de mobilisation massive. On l'attend depuis un peu plus d'un an, mais elle est toujours pas arrivée.
L'âge notamment a été avancé.
L'âge a été avancé. L'âge a été avancé effectivement. On a la possibilité en tant qu'entreprise essentielle de protéger 50% de notre population masculine. Notamment les experts,
pour continuer à tourner en fait.
Pour continuer à tourner. Donc on a cette protection. Et puis pour le reste, on attend effectivement cette mobilisation qui va probablement intervenir, qui crée un peu évidemment, et on peut le comprendre, un peu d'angoisse chez ces populations ou dans les familles. Et c'est un des points un peu délicats, effectivement, en ce moment.
Où en est le moral des salariés? Est-ce que ça fluctue selon les phases de la guerre, aussi du soutien international à l'Ukraine?
On ne le sent pas du tout.
C'est vrai?
C'est-à-dire que moi, je ne vois aucune réflexion défaitiste chez les Ukrainiens. Ils sont là, ils sont présents, ils travaillent même plus que probablement avant la guerre. Ils sont extrêmement engagés.
Ça peut pas être la vie comme si de rien n'était. Puisqu'il y a aussi le rythme des bombardements, des phases d'avancée ou de recul de l'armée.
Oui, mais si vous voulez, ils gardent cette idée que la guerre se finira. On ne sait pas exactement dans quelles conditions. Beaucoup sont encore convaincus que la victoire est possible. Et je vois un engagement qui continue.
Incroyable.
Chez nos employés,
Que faites-vous pour vos clients dont des actifs sont détruits par la guerre, et est-ce que vous envisagez déjà la reconstruction ou c'est trop tôt?
Alors, ça c'est un point qui est assez important en tout cas pour nous. C'est autant on est à court terme face à une multitude d'incertitudes, l'électricité, la mobilisation, la mer Noire, etc. Autant sur le plus long terme, et on ne sait pas quand la guerre se finira, personne ne le sait, mais sur le long terme, tout le monde est convaincu en Ukraine qu'il y aura une reconstruction et qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Alors s'y préparer dès maintenant, pour nous, et le Crédit Agricole s'est fortement engagé, par exemple en considérant que l'ensemble des résultats qui sont acquis pendant la guerre seront réinvestis intégralement dans l'économie ukrainienne, pour la reconstruction. Alors on s'y prépare, on commence, et notamment on a des partenariats importants avec les institutions financières internationales, la BIRD, la Banque mondiale, pour pouvoir travailler avec des systèmes de protection de risque et pouvoir commencer à financer des investissements. Alors nous, on commence avec l'agriculture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on finance à nouveau des tracteurs, des équipements agricoles, mais on compte le faire aussi à l'avenir sur des projets plus industriels, avec l'appui de ces institutions financières internationales.
Témoignage passionnant et fort. Merci beaucoup, Carlos de Cordoue, directeur général du Crédit Agricole Ukraine. Notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Vous êtes de passage à Paris en ce moment. Très bonne journée à vous.